Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un jugement qui va certainement déplaire à Pékin, faisant planer l'ombre d'une certaine indépendance des juges de Hong Kong. Le magna des médias opposants déclarés à la Chine, Jimmy Lai, vient d'être finalement blanchi par la justice hongkongaise. Nous rejoindrons notre correspondante sur place.
Et puis nous irons ensuite à quelques kilomètres de là, à Taïwan, où là aussi les habitants prennent leur distance avec la Chine. Sur le nouveau passeport taïwanais, la mention République de Chine y est réduite.
L'université d'art dramatique et cinématographique à Budapest, en Hongrie, est occupée par les étudiants en ce moment. Ils dénoncent la prise de contrôle des institutions par le Premier ministre Viktor Orban et par son gouvernement.
Et pendant ce temps, en France, apprentis cherchent entreprise. Ils sont 30 000 actuellement, sans formation disponible. La crise rend les patrons frileux et les coups de pouce du gouvernement ne sont pas encore entendus. Nous irons dans un CFA dans ce journal.
Et puis nous détaillerons le plan de relance dédié à la SNCF. 4,5 milliards d'euros pour combler sa perte d'activité avant d'investir. Ce matin, Emmanuel Macron célèbre les 150 ans de la proclamation de la République. Une cérémonie très politique, nous dira Frédéric Seyss, que nous retrouverons dans un gros quart d'heure. C'est assez rare pour être signalé. Un ennemi de Pékin, arrêté en grande pompe le 10 août dernier par 200 policiers, est finalement déclaré non coupable par un tribunal chez lui à Hong Kong. Le magnat de la presse hongkongais, Jimmy Lai, est finalement blanchi par la justice. Il était accusé d'intimidation, Florence de Changy.
Jimmy Lai avait été accusé par un journaliste du Oriental Daily, un journal concurrent de son groupe de presse, de l'avoir menacé lors d'une altercation qui remonte à 2017, au cours de laquelle Jimmy Lai avait non seulement insulté le journaliste, mais également promis de lui en faire voir de toutes les couleurs. Sur la base des vidéos de l'altercation et des témoignages recueillis pendant le procès, la juge a estimé que l'accusation n'avait pas apporté de preuves réelles aux accusations et qu'il s'agissait d'un simple moment de colère de la part de Jimmy Lai à l'égard de ce journaliste qui a reconnu avoir eu pour mission de suivre Jimmy Lai constamment depuis 3 ans. Avant l'incident. La juge a également mentionné que le plaignant avait été incapable de répondre à des questions simples pendant le procès, mettant en cause sa crédibilité. La réaction du célèbre militant pro-démocratie recueillie ce matin à son acquittement de la veille.
Oui, j'ai été acquitté. C'est un bon signe. Cela prouve que, en dépit du fait que ce cas était politisé, il reste des juges qui ne sont pas politisés et qui font bien leur travail.
Quelques applaudissements ont accueilli le verdict dans la cour, alors qu'une poignée de militants pro-Pékin s'étaient rassemblés à l'extérieur du tribunal pour scander « Jimmy Lai en prison ». Maintenant, Jimmy Lai est toutefois encore poursuivi avec plusieurs autres chefs d'accusation, notamment pour collusion avec des pouvoirs étrangers sous la nouvelle loi de sécurité nationale.
Une loi que des rapporteurs spéciaux de l'ONU qualifient justement ce matin de risque pour les libertés de l'ancienne colonie britannique Hong Kong. Donc, ils accusent Pékin de ne pas respecter ses obligations internationales. Après Hong Kong, Taïwan s'inquiète également d'être envahi par la Chine. La majorité des Taïwanais ne veulent pas du système proposé par leur administrateur Pékin. Pour prendre un peu plus ses distances, le gouvernement, élu démocratiquement, a pris une décision symbolique. Il modifie la couverture des passeports taïwanais, Adrien Simor.
Taïwan, écrit en lettres capitales et son nom officiel, la République de Chine, réduit au strict minimum. C'est la couverture du nouveau passeport taïwanais dévoilé par le gouvernement. Luo Jijang, député du Parti démocrate progressiste, en avait fait son cheval de bataille.
À cause de l'épidémie, les Taïwanais qui voyagent à l'étranger s'inquiètent d'être pris pour des Chinois. Car sur la couverture de notre passeport actuel, il y a écrit « République de Chine ». Il y avait un vrai besoin de pouvoir distinguer davantage les deux pays.
Mais le nouveau passeport répond aussi à l'émergence d'une identité taïwanaise, véritable phénomène de fond des dernières décennies. Selon un sondage réalisé en juin, 67% des habitants se définissent aujourd'hui comme étant uniquement taïwanais. C'est le cas de Tsayun, étudiante de 20 ans.
La majorité de la population ne se sent pas chinoise, mais taïwanaise. Bien sûr, c'est juste un changement sur la forme. Mais enlever le mot Chine de notre passeport, c'est bien plus en accord avec notre identité.
Le nouveau passeport conservera toutefois le terme de République de Chine, mais en tout petit caractère. Une manière de ménager Pékin qui menace d'envahir Taïwan en cas de déclaration formelle d'indépendance.
C'était notre correspondant Adrien Simor depuis Taipei pour France Culture. L'université hongroise d'art dramatique et cinématographique à Budapest perd son autonomie. Depuis le 1er septembre, c'est-à-dire depuis mardi, elle est passée sous la coupe d'une fondation privée dirigée par des fidèles du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán. Les étudiants de cette université ont donc décidé de résister en occupant les lieux, Florence Labruyère.
Sur la façade de l'université de théâtre et de cinéma, une immense banderole avec ce slogan « Nous nous battons pour la liberté de notre université ». 250 apprentis comédiens et cinéastes occupent le bâtiment jour et nuit en se relayant. Devant la porte des locaux située au cœur de Budapest, c'est un happening permanent entre chansons, lectures de poèmes et de manifestes. Toute la direction a démissionné. Des enseignants ont aussi rendu leur tablier, notamment la célèbre réalisatrice Ildikó Egyedi, dont le dernier film a remporté l'Ours d'or au Festival de Berlin. Si les étudiants occupent les locaux, c'est pour empêcher le nouveau conseil d'administration de prendre possession des lieux. En juillet dernier, l'université d'art dramatique est passée dans les mains d'une fondation privée. Selon le gouvernement, la réforme va renforcer l'autonomie de l'établissement et le rendre moins dépendant du budget de l'État. Le gouvernement Orbán prévoit aussi de nouveaux locaux plus modernes pour assurer une formation de pointe. Mais les étudiants n'y croient pas. La première décision de la fondation a été de supprimer tous les pouvoirs du Sénat de l'université. Cette fondation est dirigée par Attila Vidniansky, un metteur en scène très nationaliste et un fidèle de Viktor Orbán. Les étudiants demandent la démission de l'homme de théâtre. Ils exigent que leur université, qui a formé les grandes figures du cinéma hongrois, comme Bélatar et Miklós Jancsó, retrouve son indépendance. Bref, ils demandent au gouvernement Orbán d'abandonner sa réforme.
Florence Labruyère, depuis Budapest, où l'autonomie de l'Académie des sciences avait déjà été supprimée il y a quelques mois déjà et où, rappelons-le aussi, l'Université d'Europe centrale fondée par le philanthrope Georges Soros avait été expulsée. La semaine de rentrée en France maintenant, nous y venons en cette année et jusqu'en 2022. Sachez que 30 000 places supplémentaires seront créées à l'université en France. La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal évoque ce matin dans les colonnes du Figaro des places supplémentaires dans le domaine de la santé et dans le paramédical, le numérique et le développement durable. Pour ce qu'il se passe sur le terrain maintenant, là où tous les élèves sont revenus à l'heure actuelle, c'est-à-dire à l'école, ces derniers jours, une quinzaine d'établissements ont été concernés par des cas de Covid-19, des cas suspects ou des cas avérés. Cela a entraîné des fermetures de classes et d'écoles très localement pour le moment, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, en Touraine ou près de Lyon, ce qui pose déjà le problème de la garde des enfants pour les parents. Hier soir, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, affirmait que les mesures de chômage partiel seraient prolongées si nécessaire, même si, je cite encore, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Une fois la rentrée passée, ce sont les formations en entreprise qui peuvent coincer. De nombreux apprentis sont toujours en recherche. 30 000 élèves de CFA ne sont pas accueillis, selon le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. Marc Potvin l'a constaté au centre de formation des apprentis, le CFA de Saint-Maur-des-Fossés, au sud-est de Paris. Témoignages à l'appui.
Mohamed vient de s'inscrire en CAP électricien, mais il lui manque encore une entreprise pour l'accueillir. Ça fait 3 mois qu'il essuie des refus.
C'est à cause de la crise de l'épidémie du Covid-19 que les entreprises refusent de nous prendre pour l'apprentissage.
Mohamed a jusqu'à 6 mois pour trouver une entreprise, délai allongé cet été par le gouvernement qui a anticipé les difficultés des apprentis. Délai allongé aussi pour Sophie en BTS coiffure, mais elle compte bien signer avant.
Aujourd'hui, par exemple, je vais faire le tour de Paris pour poser mes CV. Donc vive le métro et vive le train.
Au CFA de Saint-Maur-des-Fossés, une cinquantaine d'élèves n'ont pas encore d'employeur, mais le directeur Fabrice Giudicelli n'est pas inquiet. Pour lui, il faut laisser le temps aux entreprises de prendre conscience des aides annoncées cet été. 5 000 euros par exemple pour une PME qui recrute un alternant mineur, 8 000 s'il est majeur.
Le décalage qu'il va y avoir entre cette prise de conscience et le fait que nous, on est des apprentis en entreprise, ça va permettre d'avoir un rebond assez important, je pense, en novembre-décembre.
En plus de ces aides, Fabrice Giudicelli plaide pour une autre mesure, un filet de sécurité pour lever les craintes des entreprises qui hésitent à prendre un apprenti.
Une entreprise qui aurait des difficultés et qui serait plus en mesure de conserver son apprenti pourrait, sous le cadre du même contrat, transmettre cet apprenti à une autre entreprise. Je pense que ça peut intéresser à la fois l'entreprise, bien sûr, qui est en difficulté et qui, du coup, trouve une solution, et l'apprenti, parce qu'il conserve son contrat. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
À l'échelle nationale, cette mesure est défendue par la CMA France, le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat, qui compte bien l'évoquer avec la ministre du Travail lors d'une réunion la semaine prochaine.
Une mesure qui pourrait être financée par l'enveloppe dédiée à l'apprentissage dans le plan de relance. Un vaste plan à 100 milliards d'euros. Nous l'évoquions hier ici même. Penchons-nous maintenant sur une entreprise qui pourrait toucher gros grâce à ce plan, la SNCF. Plus de 4,5 milliards d'euros lui seront alloués pour la reconquête du rail, selon l'expression du Premier ministre. Mais est-ce une reconquête ou un plan de sauvetage, Annabelle Grelier ?
Déjà, près de la moitié de l'enveloppe, 2 milliards d'euros, servira à combler quelque peu la perte d'activité qu'accuse la SNCF depuis décembre avec les grèves contre la réforme des retraites, suivies de la crise sanitaire et du confinement. Sans trop de détails, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, promet que le reste de l'enveloppe, soit 2,7 milliards d'euros, ira à l'entretien du réseau, aux petites lignes et aux trains de nuit, ce qui fait déjà beaucoup, et de se demander ce qu'il va bien pouvoir rester pour le fret. Le fret qui tient particulièrement à cœur au Premier ministre, Jean Castex veut soutenir le fret ferroviaire pour favoriser la transition écologique. Plus de trains, ce sont moins de camions sur les routes et donc moins de pollution. Mais le fret part de loin. Il représente aujourd'hui seulement 9% de part de marché du transport de marchandises en France, quand la route rafle les 90% restants. La SNCF n'assure d'ailleurs que la moitié du transport de marchandises. Il faut se souvenir que l'ouverture à la concurrence européenne a déjà 10 ans et les concurrents allemands ou belges sont maintenant bien installés. 200 millions d'euros sur 2 ans, c'est donc la ligne sur l'ensemble de l'enveloppe qui devrait être allouée à la SNCF fret. C'est évidemment très très loin des 16 milliards d'euros qu'il faudrait investir, selon la profession, sur les 10 prochaines années pour parler d'un véritable essor du fret ferroviaire. En attendant, il faudra s'en contenter. Et le gouvernement d'ailleurs a du mal à cacher son agacement vis-à-vis de la SNCF et surtout ses syndicats, la CGT en tête, qui annonce pour le 17 septembre une grève dans le cadre d'une journée d'action plus large avec la FSU, Solidaire et des organisations de jeunesse.
Il avait théorisé le concept de « bullshit job », emploi à la con pour la traduction littérale. Nous avons appris la mort de l'anthropologue et économiste américain David Graeber à l'âge de 59 ans, une figure du mouvement Occupy Wall Street que nous recevions dans les matins de France Culture il y a 2 ans, en 2018. Et nous en écouterons un extrait d'ailleurs dans quelques minutes.
Absolument, Clara. Le procès des attentats de janvier 2015 est entré dans le vif du sujet hier.
Oui, après quelques soucis techniques et des querelles sur le port du masque lors de l'audience, la deuxième journée a été longue et elle était consacrée à l'examen des personnalités de 7 accusés, Florence Turm.
Passage obligé dans la chronologie d'un procès d'assises, cet examen de personnalité a livré une galerie de portraits en demi-teinte, accusés masqués ou pas, qui à ce stade n'éclaire guère sur le dossier lui-même, si ce n'est un casier judiciaire conséquent et le fait qu'ils se présentent tous comme innocents. Loin aussi de tout radicalisme religieux, même si cet aspect-là ne sera évoqué que plus tard. Ce dossier a foutu ma vie en l'air, lance Abdelaziz Abad qui finit par s'agacer des questions de la cour. Je regrette ce qui est arrivé pour les parties civiles, articule Michel Catineau, 68 ans. À ses côtés, son ami Metin Karasoular, garagiste turc volubile, dénonce les conditions de détention dans les prisons françaises en s'estimant plus innocent que tout le monde. Il y a encore Saïd Maklouf, ce colosse ambulancier qui s'est découvert une passion pour la cuisine en prison. Mais je n'ai pas le droit aux activités, on me dit que je suis un terroriste. Je n'ai jamais eu cette idéologie-là. Puis, Miguel Martinez, converti à l'islam à l'âge de 10 ans, au lendemain de la mort de son père. Il parle de lui beaucoup et son détour. J'avais un tempérament bagarreur, je ne peux pas le nier. Évoque la religion comme un refuge, un voyage à la Mecque. Mais dit-il, je suis vacciné contre le terrorisme depuis longtemps, depuis les années noires en Algérie. Et j'ai profondément honte, ajoute-t-il d'une traite, un mal-être permanent depuis que je sais que je vais passer devant les familles de victimes, alors que j'ai rien fait pour qu'elle soit dans la douleur.
Florence Turm, qui suivra le procès aujourd'hui, encore procès des attentats de janvier 2015, suite des examens de personnalité ce vendredi encore. Comme tous les vendredis, c'est jour de grands reportages à la rédaction sur France Culture et il est cette semaine consacré à une thérapie utilisée pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Une thérapie par le jeu. Cette technique est proposée en Belgique à l'Université catholique de Louvain avec des enfants très jeunes, âgés de 4 ans. Wafia Kenich a suivi leur stage de rééducation basé donc sur le jeu. Elle a notamment rencontré Yannick Bleyenhoeft, chercheuse de neurosciences en neurosciences, à l'origine de cette méthode. Voici un extrait.
Vas-y.
Ce que cette thérapie a de différent par rapport aux thérapies conventionnelles, c'est évidemment l'intensité. On a les enfants ici 5 heures par jour pendant 10 jours, donc c'est extrêmement intense. Et puis le second pilier, c'est ce qu'on appelle le contrôle moteur volontaire. Donc ça veut dire que vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de thérapeute qui va tenir un bras pour faire sentir à l'enfant comment faire, pousser sur une jambe pour sentir par où le mouvement doit aller ou tenir un bassin. On est dans ce qu'on appelle une thérapie « hands off ». Oui, si quelqu'un doit apprendre à jouer du piano, hein, on ne va pas prendre le doigt de la personne qui apprend pour le bouger sur les notes. Eh bien, pour ces enfants, évidemment, on ne les met pas face à du piano ou du violon, mais les tâches qu'on leur propose, les objectifs, comme le fait de s'asseoir, comme le fait de mettre son t-shirt, comme le fait de pouvoir monter seul sur les toilettes, par exemple, eh bien, sont aussi difficiles pour eux que d'apprendre à jouer du piano pour le commun des mortels. Je pense que ça a été un déclic de voir tellement d'enfants qui n'ont quasiment plus accès à des rêves. Ici, on travaille la motricité, on va permettre à des nouvelles choses de se mettre en place, mais surtout, ils se rendent compte que c'est possible pour eux.
Quand le jeu réduit le handicap, c'est un grand reportage de Wafia Kenich réalisé grâce à Annie Bro. Il sera présenté ce soir sur France Culture à partir de 17h et sera présenté donc par Aurélie Kiefer. De la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel pourrait être gris et humide ce matin avant de laisser place aux éclaircies. Ailleurs, c'est assez simple. Grand soleil pour tout le monde et une chaleur qui s'installe pour la journée de 15 à 20 degrés ce matin, 23 à 31 degrés cet après-midi.